BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
Bienvenue dans Les pionniers avec cette semaine au sommaire le tête-à-tête avec un pionnier du web. Il a fondé Fotolia, qu'il a formidablement développé puis revendu pour plus de 800 millions de dollars à Adobe. Il a ensuite développé sa fibre d'entrepreneur d'idées. Il est devenu créateur de créateurs en fondant le startup studio eFounders, dont sont déjà sortis trois licornes, Spendesk, Aircall et Front. Nous aurons l'immense honneur de recevoir Thibaut Elzéar.
Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons Annabelle Selam, la présidente de Nootropia, et Paul Lévy, le directeur général et cofondateur de Moduloop. Enfin, en dernière partie, comme à chaque fois, Fred répondra aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de bfmbusiness.fr.
Et tout de suite, on commence avec le tête-à-tête avec Thibaut Elzéar.
Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
Bienvenue dans Les pionniers. Aujourd'hui, nous recevons Thibaut Elzéar. Bonjour Thibaut.
Bonjour Fred.
Alors, on te décrit comme un entrepreneur d'idées. Ce que tu aimes, toi, c'est créer. Ton premier succès, c'était avec Fotolia, n'est-ce pas? Et tu es également un créateur pour les créateurs, puisque en 2011, tu as fondé le startup studio eFounders. Tu nous en diras évidemment plus qu'un mot. Tu as également investi en tant que business angel dans plus de 200 projets. Hein, donc, tu sais ce que c'est que l'entrepreneuriat, tu sais ce que c'est qu'un entrepreneur. Tu les rencontres d'ailleurs toi-même. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va revoir ton parcours, mais surtout étudier ta manière de penser, tes émotions, tes ressentis, comment tu gères tous ces passages qui sont en fait des choses que tu fais pour la première fois, que souvent beaucoup de gens n'ont jamais faites. Et on aura quelques interventions de Stéphanie qui va nous parler de passages structurants dans ton parcours. Et on va explorer un petit peu la manière avec laquelle tu prends tes décisions dans la vie de tous les jours. Alors on va commencer par le début.
Waouh.
Ouais, le début. Tu es un pionnier du Web 2. Et tu es né en 1979 et tu as grandi dans un petit village en Provence, Oreille.
Dans les Alpilles.
Dans les Alpilles.
Au sud d'Avignon.
Voilà. À quoi ça ressemblait ton enfance alors?
Écoute, j'étais nu et je courais dans la garrigue.
D'accord. T'as des photos ou pas?
C'était pas exactement. Non. Tu sais, à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de photos. Heureusement, il n'y a pas de gros dossiers. Écoute, enfance tout à fait heureuse dans un tout petit village de 1500 habitants. Effectivement, au milieu de la nature. Avec quand même un petit accès internet, Infony en 95.
Donc pas un troquet, pas une mobilette, mais internet.
Exactement, interdit les mobilettes, hein, j'avais pas le droit.
D'accord. Et tu te souviens d'ailleurs la première fois?
Tu as la vie, c'est qu'à l'époque en campagne en France, il mieux pas avoir une mobilette.
Et puis en plus tu avais internet donc. Alors tu te souviens de la première fois où vous avez eu internet
à
la maison?
Je me rappelle de Infony, je crois que c'était en 94 ou en 95 et c'était il y avait un grand chat, donc tu te connectais avec ton modem 36 000 baux, je sais pas
combien. 28K.
Voilà, 28K.
Un 36K. T'avais un 36K,
je crois que j'avais un 36K. J'ai commencé avec le 14, puis le 28, 14, puis 36, 28, ça s'est fait à peu près la même année.
56,
et on était connectés à Infony. Et je me rappelle, il y avait un chat où tout le monde était, tous les abonnés d'Infony étaient sur le même chat. Donc tu parlais avec tous les abonnés, on était peut-être quelques centaines. Et c'était le début d'accès à Internet, c'est le moment où tu téléchargeais les trailers de films.
Oui, il fallait attendre.
Ça monopolisait le téléphone familial. Oui. Alors pendant 36 heures, les parents étaient
complètement... C'était la même ligne, évidemment, oui. Et oui. Alors, tu as commencé ensuite tes études en économie à l'Université Lumière à Lyon 2, puis tu es entré à Centrale Lyon, et c'est quand tu fais un projet pour l'école que tu prends conscience du potentiel, justement, d'Internet pour résoudre des problèmes.
Alors, j'ai fait une prépa à Marseille, je suis rentré à Centrale, et en parallèle de Centrale, j'ai effectivement fait un petit doc d'économie pour découvrir autre chose que l'ingénierie. Et c'est effectivement là que je me suis mis à découvrir l'entrepreneuriat, à découvrir l'Internet, grâce à une école qui était une école de commerce de l'autre côté de la route qui s'appelait l'EM Lyon et qui m'a fait découvrir la partie, je dirais, business de l'entrepreneuriat. Quoi.
Et alors, donc tu as créé ton premier site Internet qui s'appelait monsosie.com.
Aïe, vous êtes tombé là-dessus.
Oui, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Alors, ça servait à quoi?
Écoute, sans prétention... Je crois que j'avais l'objectif avec monsosie.com de faire exactement ce que Zuckerberg avait fait avec Facebook. L'idée, c'était de déployer, donc, pas sur Internet, mais sur le serveur interne de l'école. Et l'idée, c'était de récupérer le trombinoscope de tous les élèves et toutes leurs informations. Et je m'étais dit, à l'époque de l'Internet, on rentrait un peu n'importe quoi. Et je m'étais dit, la seule manière de faire en sorte que les gens rentrent des bonnes informations, c'est de leur donner la possibilité de trouver quelqu'un qui leur ressemble. Dans ce cas-là, t'as pas le droit de mentir, puisque si tu veux trouver quelqu'un qui te ressemble, t'as intérêt de rentrer ta bonne couleur de cheveux, ta bonne photo, ta bonne taille. Et du coup, je suis tombé un peu naïvement sur un site qui s'appelle Mon Sosie, que j'ai après déployé sur Internet et qui a eu son petit succès. Je crois qu'on a eu une 30 000 membres. Et je l'ai vendu à l'époque où, un peu avant de lancer Photolia, et ça a permis de financer un petit peu mon train de vie pendant quelques mois, à proprement parler.
Donc, c'était le tout début du user-generated content, c'est-à-dire le contenu généré par les utilisateurs.
Exactement.
Et donc là, tu étais en plein dedans. Donc c'était ta première expérience de Web2.
C'était ma première expérience de Web2. C'est un peu comme ça que j'ai appris à développer, en fait, à coder, parce qu'à l'époque, soit tu savais coder et tu lançais ton site internet et tu lançais ton business sur internet, soit tu savais pas et tu le faisais pas, tu trouvais pas un CTO, un développeur au coin de la rue comme tu peux le faire aujourd'hui, quoi. Donc c'est ça qui m'a fait. Et c'est, on en reparlera, mais c'est le fait d'avoir accepté des photos sur Mon Sosie et de pouvoir de gérer ces photos qui m'a donné en fait l'idée un peu plus tard de Photolia.
Bon, et alors en troisième année de centrale, tu pars à Berlin et ensuite tu es en stage dans une grande entreprise. Tu fais quoi pendant ton stage? Raconte-nous.
Écoute, j'arrive, effectivement, on a le droit de citer les entreprises.
Hein. Ah, bien sûr.
Stage chez Total, alors le truc qui m'emmerdait, genre fondamentalement, mais j'avais envie de rester à Berlin parce que c'est une ville incroyable et on était en 2003-2004, hein, donc c'était le Berlin des grandes années, et j'avais envie de rester sur place, et j'avais envie de continuer à faire la fête, et j'avais négocié avec mon maître des stages le fait de pouvoir finalement coder, développer. À l'époque, hein, on n'avait pas tous un ordinateur, voilà, en tout cas j'avais pas les moyens pour me payer un ordinateur, et grâce à mon maître de stage et grâce à Total, j'ai pu profiter pendant les 6 mois de mon stage de fin d'études d'un ordinateur qui m'a permis en fait d'écrire les premières lignes de code de Photolia.
Alors t'écris les premières lignes de code de Photolia, mais... tu vas quand même chercher un job juste à la sortie. Ça se passe comment, cette recherche de job?
Écoute, j'ai Photolia en tête, j'ai envie de lancer ma boîte, mais je suis rappelé à la raison par mes parents. Ma mère m'appelle un jour en me disant « T'es gentil, mon chéri, mais il va falloir que tu sois autonome, indépendant et que tu payes pour,
débrouiller tout seul un peu.
Pour bouffer. » Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit « Waouh, il va falloir que je trouve un boulot. » Et j'ai commencé à déposer ma candidature à droite à gauche. Je suis tombé, j'ai été pris. Hein. Alors, j'ai eu pas mal de refus finalement parce que un peu insolent, un peu...
Ça se voyait déjà dans les lettres de motivation que t'étais insolent?
J'étais
pas vraiment motivé?
Non, j'étais pas motivé, j'étais pas dedans. Et souvent, j'étais convié au premier entretien et souvent, ça se passait mal.
Et pas au deuxième.
Ouais, exactement, pas au deuxième.
Et t'avais un bon CV, mais c'est à l'oral que...
Exactement, ça passait pas forcément. Mais en fait, j'avais vraiment ce projet Photolia en tête et en même temps, le besoin et la nécessité, parce que j'avais pas de quoi finalement me nourrir, de trouver un job... J'ai trouvé un job finalement dans une boîte de conseil à Paris. Ça a duré 3 jours et je me suis fait virer au bout de 3 jours.
Et comment tu t'es fait virer?
Écoute, j'avais imprimé le business plan de Photolia. Et le jour où je devais finalement, alors quand t'es consultant...
Donc dès le deuxième jour, t'avais imprimé
Le deuxième jour au soir, j'avais imprimé le business plan de Photolia. Et le troisième au matin, alors que je devais commencer chez un client, tu sais quand t'es consultant,
oui,
tu dois commencer chez un client. Voilà, déjà ça m'emmerdait parce que je devais partir à l'autre bout de Paris. Bref, je reçois tard le soir un coup de téléphone de mon manager qui me dit « Écoute, avant de partir chez ton client, passe au bureau à 8h30, je dois te dire quelque chose. » Et là, quand je suis arrivé, il avait dans les mains le business plan de Photolia et il m'a dit « Écoute mon gars, j'ai l'impression que t'as pas envie de faire ce pourquoi t'es venu nous rejoindre et nous, on n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui est pas dedans. Donc, je mets fin à ta période d'essai. » Je me suis retrouvé, je m'en rappelle, à 9h au milieu de Paris, au niveau de je le vois en tête, près de la gare Saint-Lazare, et je me suis dit, allez, à nous deux, il va falloir que je lance mon business, quoi.
Donc, tu as passé à peu près 2 jours et 30 minutes à travailler pour quelqu'un d'autre.
Exactement.
Dans ta vie.
Exactement. Et j'ai réalisé que, à la fin, t'as quand même un solde de tout compte qui te permet de gagner un peu d'argent pour financer les 3-4 prochaines semaines, quoi.
Et donc, c'est là que tu lances, Photolia. En 2004, Stéphanie va nous en parler.
Oui. Banque d'images libre de droit dans 23 pays en 8 langues avec votre associé Oleg Chelzov. Vous proposez des images et des vidéos de haute qualité aux internautes et aux professionnels pour illustrer sites web, pubs ou encore brochures. Très vite, le succès est colossal et planétaire. La barre des 4 millions de membres est franchie en 2008. La base de données compte 34 millions d'images et de fichiers. Et en 2014, vous vendez Photolia à Adobe pour 800 millions de dollars.
Et pourquoi tu étais convaincu que ça allait marcher? Et comment tu as fait?
Écoute, à l'époque, il existait des banques d'images professionnelles, des noms comme Getty ou Corbis, et ces banques d'images étaient alimentées par des photographes professionnels. Et moi, j'ai eu cette idée folle, un peu naïve à l'époque, de se dire, d'une part, qu'on allait pouvoir créer une banque d'images avec les photos prises par les amateurs, le tout un chacun qui avait un appareil photo numérique. Et j'avais aussi cette deuxième conviction que la qualité des photographies numériques était allée être assez importante pour pouvoir être utilisée de manière professionnelle. Et c'est comme ça que je suis arrivé.
À l'époque, c'était des appareils photo numériques des vrais, c'était pas sur les téléphones.
C'était l'appareil photo numérique, 3 millions de pixels. Je me rappelle qu'avec justement mon premier stage que j'avais fait un petit peu avant, le stage justement où j'ai rencontré mon associé Oleg Chelsov, j'avais gagné un petit peu d'argent et je m'étais acheté un petit Sony Exilim à l'époque, 3 millions de pixels. J'avais pris cette photo et je me suis dit, voilà, la photo numérique, c'est l'avenir de la photo. Et à ce moment-là, c'était pas du tout la norme et on te croyait pas. C'est-à-dire que les photographes classique, argentique, je veux dire, te riaient au nez quand tu leur disais que t'allais utiliser, que des photos numériques allaient être utilisées, je dirais, dans un cadre professionnel, quoi.
Et alors, t'es en plein développement de Photolia, mais en même temps, tu trouves peut-être que c'est pas assez déjà de créer une boîte en plus, avec le succès qu'on lui connaît par la suite. Tu montes Ziloc en même temps avec Marion Carrette et Gary Sige.
Écoute, alors pas exactement en même temps, hein. Je lance Photolia, j'attends que la boîte soit sur un train, soit sur des rails. Et en 2008, effectivement, je me dis waouh, personne n'a pensé à faire un eBay. eBay, c'était cette grande place de marché, un peu moins connue aujourd'hui, mais qui était très connue et très reconnue à l'époque, qui était une place de marché de tout, où on pouvait acheter et vendre n'importe quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un eBay de la location? Et c'est là, effectivement, où j'ai rejoint Marion et Gary, et j'ai lancé ça en parallèle
de... Te voilà, justement, en train
très belle image.
De parler de Ziloc.com pour louer ses objets. Donc là encore, c'est du Web 2 toujours, hein, c'est-à-dire du C2C, on va dire, enfin du contenu généré par des utilisateurs et utilisé par d'autres, enfin sous un mode un peu petites annonces, mais largement amélioré évidemment. Tu vends Photolia en 2009, donc 5 ans après la création, ce qui est quand même extrêmement rapide, et puis en plus ça reste une des plus grosses ventes de l'histoire des startups Web 2, parce que c'est 800 millions de dollars.
Alors, qu'est-ce que ça a été vendu en 2014, hein, 800 millions de dollars à Adobe. Entre-temps, on a fait 2 ventes, hein, à des fonds d'investissement. Ça s'est fait en plusieurs fois.
Ça s'est fait en plusieurs étapes.
Et la première vente, effectivement, la première fois où je touche un chèque de Photolia, parce qu'on a vendu une partie de l'entreprise, c'était en 2009.
Alors, qu'est-ce que ça change dans ta vie, ta vision de l'entrepreneuriat et ta compréhension de ce que toi, tu aimes et de ce que tu as envie de faire?
Écoute, j'ai 30 ans à ce moment-là, quand je vends la première fois un Photolia. Je réalise plusieurs choses. D'une part, je touche un gros chèque. Je me rappelle la petite anecdote, pendant 15 jours après avoir reçu mon argent, j'avais peur de mourir. Et à chaque fois que je traversais la route, je regardais plusieurs fois à droite, à gauche, pour être sûr de ne pas me faire renverser. Quoi, tu vois. Bon, j'en ai parlé à mon psy depuis, c'est réglé.
Mais déjà, ça y est, maintenant tu es relax par rapport à ça, tu arrives à traverser la rue?
Écoute, depuis j'arrive à m'en sortir et je suis content justement que ça soit fait progressivement, parce que ça a été la première fois où j'ai touché de l'argent. Puis après, à chaque vente de Photolia, j'en ai touché davantage. J'ai eu beaucoup de chance de gagner beaucoup d'argent avec Photolia, mais ça s'est fait progressivement. Mais je dirais que la fois la plus marquante, c'était ce moment où, je me rappelle, tu te connectes sur ton compte en banque, tu vois, ce moment dont tout le monde rêve d'une certaine façon, et que tu vois un chiffre qui dépasse la taille du tableau, quoi, tu vois, et c'était un moment incroyable. Et je me rends compte aussi que ce que j'aime, et c'est pour ça un petit peu, tu parlais de l'aventure Ziloc, hein, ce que j'aime, c'est surtout lancer des boîtes et pas forcément les manager. Moi, je suis plutôt, tu le disais au départ, un entrepreneur d'idées. C'est marrant, c'est que ma mère utilise exactement le même terme. Je suis l'entrepreneur qui aime bien faire le 0 to 1, c'est-à-dire les premières années de la création d'une boîte, de l'idée finalement à la matérialisation de l'idée, et finalement manager ou faire tourner une boîte, ça m'intéresse un peu moins. J'ai Photolia à ce moment-là cartonne, mais je décide de faire autre chose et de commencer à continuer à travailler avec Photolia, mais en parallèle créer d'autres boîtes, et c'est comme ça que est né tout le reste.
Et alors, donc tu investis aussi beaucoup, tu es quel genre d'investisseur quand tu vas chercher des projets? Qu'est-ce que tu cherches en fait?
Écoute, alors déjà, moi en 2009, je me dis que j'ai, en fait, Oleg et Patrick Chassani, qui ont été mes deux associés sur Photolia, sont arrivés en tant que business angel et ont changé complètement la donne. C'est-à-dire que moi, je lançais une boîte, j'avais vraiment pas les moyens. Ils ont mis quelques centaines de milliers d'euros au départ, ce qui était énorme à l'époque, hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut mettre des millions pour pouvoir un article dans la presse. À l'époque, ils ont mis quelques centaines de millions de milliers d'euros, mais pour moi, ça a complètement changé la donne et j'ai pu me mettre à 100% dans mon business. Donc, ce que j'avais vécu vécu au Fotolia, je voulais le faire vivre à d'autres. Ça, c'était une première chose, une des premières raisons. Et aujourd'hui, je continue à le faire parce que, d'une part, ben, ça me permet de continuer à rendre, je dirais, à la communauté entrepreneuriale. Et d'autre part, et c'est une des raisons pour lesquelles je le fais, c'est que ça me permet de découvrir plein d'autres sujets. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir, en mettant de l'argent dans des petits projets, à la fois des entrepreneurs, mais aussi des marchés, des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de créer, quoi.
En 2011, tu rencontres Quentin Ninkmans, qui, lui, a une idée. C'est quoi cette idée ?
Alors, Quentin, lui, Ninkmans, qui est un Belge, qui est depuis mon associé, hein, depuis maintenant 13 ans, a une idée de faire du crowdfunding. Lui, ce qu'il cherchait à faire, c'était faire une plateforme où des entreprises peuvent lever de l'argent de manière un peu communautaire. Et moi, en tête, j'ai une idée de faire de la co-création de boîtes. Et de notre rencontre naît effectivement l'idée d'un nouveau modèle, qui est le modèle de Startup Studio, et cette entreprise qu'on créera ensemble pendant plusieurs années et sur lequel on travaille toujours, qui s'appelle eFounders.
Stéphanie, eFounders.
Ouais, effectivement, le principe d'eFounders, vous soumettez l'idée d'une start-up à des entrepreneurs, puis vous vous associez avec eux comme cofondateurs, vous les accompagnez en leur apportant capital humain, expertise, jusqu'à ce que la start-up soit opérationnelle et financièrement indépendante. En 11 années d'existence, eFounders a lancé 34 entreprises, dont 3 licornes, Spendesk, Aircall et plus récemment Front. Le portefeuille d'eFounders atteint aujourd'hui 2 milliards de dollars de valorisation.
Voilà. 5 maintenant d'ici avec les nouveaux chiffres de 2023.
Donc on est 5 milliards de valorisation pour l'ensemble du portefeuille.
Exactement. De toute la valorisation cumulée de toutes les boîtes qu'on a lancées avec eFounders.
Alors, il s'agit de créer, hein, il ne s'agit pas de copier, c'est bien un studio qui crée des nouveaux concepts, des nouvelles boîtes. Comment vous faites pour trouver, c'est quoi les critères pour aller chercher des idées et puis les développer
Écoute, comment est né, la question c'est comment est né eFounders ? eFounders, c'est né, moi, du fait de vouloir lancer plein de boîtes et de chercher un modèle qui permettait en 10 ans, plutôt que de lancer une boîte, parce que ça prend 10 ans, hein, pour faire une grosse boîte, plutôt d'en lancer 30, quoi. Et ça vient du fait que pendant l'histoire de Fotolia, en fait, j'ai rencontré plein de problématiques, ok? Et en 2011, quand je pense à eFounders, j'ai 5 idées en tête de boîtes à régler. Et donc, je cherche une solution, un modèle d'organisation qui me permettra de lancer ces 5 idées. Et c'est comme ça qu'est né le concept de Startup Studio.
C'est aussi pour ça que c'est souvent quand même des entreprises qui viennent résoudre des problèmes d'autres entreprises.
Exactement.
Oui.
Exactement. Les 5 boîtes que l'on a créées chez eFounders au départ répondent à 5 problèmes que j'ai rencontrés pendant la vie et la création de Fotolia. Donc, les premières boîtes qui ont été Textmaster, Mailjet, Mention, Front et Aircall, c'est des solution à des problèmes très concrets que j'avais rencontrés pendant l'aventure Fotolia. Puis après, en créant ces 5 boîtes, en fait, on a découvert de nouveaux problèmes qu'on a réglés avec les 25 autres. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on crée nos idées. C'est qu'en créant des nouvelles boîtes, on se confronte à des nouveaux problèmes. Et en se confrontant à des nouveaux problèmes, on les résout à travers des boîtes qu'on crée, qu'on co-crée avec des entrepreneurs qu'on rencontre.
Alors justement, tu parlais d'Aircall. On a une petite question pour toi de la part d'un des cofondateurs d'Aircall.
Hello Thibaut. J'espère que tu vas bien et bravo pour ce petit passage sur BFM avec Fred. Écoute, petite question, on le sait, toutes ces dernières années, les entreprises ont passé leur temps à lever des fonds, beaucoup de fonds. La crise est en train de s'enfoncer dans le monde entier. Est-ce que c'est pas le moment de commencer à communiquer auprès des entrepreneurs que lever des fonds n'est pas une fin en soi et qu'on peut créer une entreprise de croissance sans nécessairement lever des fonds et en créant un modèle un peu différent que ce que les startups ont connu ces 10 dernières années. Voilà, allez, enjoy ce moment.
Merci John, écoute, c'est une excellente question de savoir si effectivement on peut créer un modèle d'entreprise qui soit pas financé. Moi je pense qu'il y a plein de typologies d'entreprises qui ont pas besoin de fonds et on s'est un petit peu trompé dans les dernières années en finançant parfois avec du venture capital des entreprises qui n'étaient pas backable en tout cas finançable par ce genre de d'investisseurs. Par contre, moi je pense que dans le software, dans le logiciel, c'est de plus en plus compliqué, ça prend de plus en plus de temps pour arriver à créer un logiciel au standard d'aujourd'hui qu'il faut à tout prix pouvoir le financer pendant 2, 3, 4-5 années. Et pour pouvoir financer une équipe de 20-25 personnes pendant 4 ou 5 ans, ben, il faut un peu d'argent. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une longue vie pour le modèle de financement. Et j'espère qu'on trouvera encore des fonds pour pouvoir financer les grandes entreprises si on veut créer les leaders de la tech de demain en Europe.
Oui, c'est l'investissement de départ qui est nécessaire parce qu'au début, effectivement, le projet n'arrive pas à gagner de l'argent. Il est encore en train d'investir sur sa solution, son produit, trouver son marché. Ça prend un peu de temps. Quoi.
Quand on prend les solutions de logiciels modernes, qui arrivent sur le marché, on voit qu'elles prennent 4 ou 5 ans avant d'arriver avec une première version du produit qui soit monétisable. Et ces 4 ou 5 ans, il faut les financer d'une manière...
Et on les finance, et en plus, c'est principalement pour financer les gens qui travaillent sur le projet. Hein.
On ne finance pas du marketing, on finance des équipes d'ingénieurs qui vont travailler, mais quand tu as payé 20-25 ingénieurs pendant 5 ans, ça coûte quelques millions d'euros.
Tu viens d'annoncer la création d'EXA. Nous en parle un petit peu, ça vient chapeauter eFounders et deux autres studios. C'est quoi l'ambition ?
Exactement. Écoute, on a créé donc eFounders pendant 10 ans. eFounders, c'est un modèle de start-up studio et on a réalisé que ce modèle était plus ou moins fonctionnait bien. On a créé 34 boîtes dont des succès dont vous avez parlé comme Aircall justement avec Jonathan, Spendesk et Front. Et on s'est dit qu'on voulait appliquer ce modèle à d'autres verticales. Donc il y a 2 ans, on a rencontré quelqu'un d'incroyable, un entrepreneur qui s'appelle Camille Tian avec lequel on a créé un studio verticalisé autour de la fintech. Et puis récemment, on a créé le studio Logic Founders avec Florent autour du Web3. Et cette année, on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin. On va créer EXA. EXA, on a quoi comme mission ? On va continuer à supporter nos studios pour créer des boîtes incroyables, 3 ou 4 boîtes par studio par an. Et on va créer des nouveaux studios. Donc on va appliquer ce modèle de start-up studio sur d'autres verticales comme le climat, comme l'éducation, comme la santé. Et c'est ça EXA aujourd'hui, avec beaucoup d'ambition, l'ambition de créer plusieurs dizaines, vingtaines de boîtes par an, avec ce nouveau...
Là, tu passes de 3-4 avec eFounders à entre 10 et 20.
Exactement. On était à 3-4 il y a 2 ans. Cette année, on va être à 8 boîtes grâce au nouveau studio Logic Founders et FreeFounders dont on vient de parler autour de la fintech et du Web3. L'année prochaine, on sera à 10 et d'ici 2 ans, on devrait être à 15-20 boîtes dépendant du nombre de studios qu'on crée. L'idée, c'est de démocratiser une nouvelle forme d'entrepreneuriat qu'on appelle, nous, on pense que le modèle de studio vient en fait offrir un nouveau modèle d'entrepreneuriat qu'on appelle l'entrepreneuriat collectif, qui dit que finalement, qui vient renverser un petit peu le modèle qu'on connaît depuis le début de l'humanité, qui est le fait que des gens se lancent tout seuls et finalement lancent une boîte pendant 2 ou 3 ans tout seuls. Nous, on change le modèle. On part du principe que le jeu collectif prévaut devant l'action individuelle et qu'on sera meilleur à créer des boîtes à plusieurs.
Oui, c'est d'ailleurs aussi une réponse aux galères du début de Fotolia que tu as connues, où tu étais quasiment tout seul.
Exactement.
Et là, maintenant, tu as créé un collectif pour qu'en tant qu'entrepreneur, quand on démarre, on se sente un peu moins seul et qu'on soit accompagné. Alors, mais t'as pas le FOMO quand même de ne pas suivre, de ne pas tout faire. Enfin, là, tu vis plusieurs vies d'entrepreneur en fait, grâce à tous ces projets-là. Mais donc, tu fais pas toutes les histoires. C'est une manière de vivre plein de vies, en fait.
Exactement. C'est très frustrant, hein. Effectivement, quand un projet part, l'idée, c'est qu'au bout de 18 mois, un projet sort du studio. Et évidemment, c'est de lui laisser totale liberté, parce qu'on veut que les projets, les entrepreneurs aient leur propre vision, leur propre culture, leur propre ADN. Donc, on n'y touche plus. Mais c'est un petit peu frustrant. Mais je me rattrape par ailleurs sur le fait de découvrir plein d'autres projets.
On a quelques images d'un de tes nouveaux projets. Il y en a plein. Il y en a un qui est assez visuel, qui s'appelle Gamma.
Ah.
On va voir quelques photos de Gamma. Tu nous en dis un mot. Et puis ensuite, on passera à la conclusion. Alors, Gamma, qu'est-ce que ça
veut dire ? Waouh ! Alors, Gamma, c'est une 3D, hein, puisque ça ne s'est pas encore passé. Écoute, Gamma, ça n'a rien à voir avec eFounders ou EXA. Hein, c'est un projet perso. Moi, il y a 20 ans, j'ai fait un mémoire sur la propulsion photonique, sur les voiles solaires. Et je me suis fait un petit plaisir, il y a 2 ans, m'associant avec 2 personnes. Et on lance notre projet de voile solaire. C'est-à-dire qu'on va déployer d'ici quelques jours en orbite, dans l'espace, une voile qui sera poussée, je dirais, par les photons du soleil, quoi. Et l'idée, c'est d'arriver avec une alternative, avec la propulsion qu'on connaît déjà, la propulsion chimique, en créant une voile qui soit, je dirais, propulsée par le soleil.
Très bien. Alors, pour conclure, une petite question inattendue. Est-ce que tu t'es déjà ennuyé plus d'une heure dans ta vie ?
Non. Écoute, je méritais de m'ennuyer davantage.
Très bien.
C'est mon objectif pour 2023.
D'accord. C'est très sain. Merci beaucoup Thibaut, et quant à nous on se retrouve juste après pour le pitch.
BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
Les pionniers, on continue avec le pitch cette semaine sur le plateau avec moi Stéphanie et Agathe Vautier qui est cofondatrice et CEO du Galion Project, le think tank des entrepreneurs. Chaque semaine, vous pouvez venir présenter, pitcher votre activité et faire en sorte d'obtenir justement des conseils de nous tous sur le plateau. Vous pouvez candidater directement sur la page de l'émission sur BFM Business ou bien en scannant le QR code qui se présente à l'écran.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
Et on commence tout de suite cette partie du pitch en recevant Annabelle Selam. Bonjour Annabelle, soyez la bienvenue. Vous êtes la présidente de Nootropia. C'est aussi le nom du produit que vous développez, une boisson qui se veut anti-stress. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Agathe. On débriefera ensemble votre passage ensuite, suivront des questions et des conseils également. Mais d'abord, c'est à vous, vous avez 1 minute 30, top chrono.
Déjà, bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Annabelle, donc je suis docteur en pharmacie et la fondatrice de Nootropia. En fait, pendant mes études et ensuite dans le monde professionnel, je me suis aperçue que j'avais des besoins au quotidien. J'avais besoin à certains moments d'être concentrée dans ma journée ou à certaines périodes de l'année. J'avais besoin de mémoriser des informations rien que pour arrêter d'oublier mes clés par exemple. J'avais aussi besoin d'énergie pour tenir le rythme et d'être calme pour ne pas subir la pression ou être trop stressée à certains moments. J'ai cherché des solutions naturelles et saines mais sans en trouver. Je me suis inquiétée et j'ai donc appelé plus de 500 personnes pour comprendre si ce problème il m'était propre ou s'il était commun. Je me suis aperçue de l'ampleur du problème. J'ai donc décidé de mettre à profit mes études de pharmacie et de développer une solution naturelle et saine. Après 2 ans de recherche et développement, supervisée par des neuroscientifiques, des experts en phytothérapie, Nootropia est enfin née. C'est un complément alimentaire, une boisson qui nous permet d'apporter de la concentration, de diminuer le stress et l'anxiété, d'augmenter la mémoire et en même temps d'apporter l'énergie nécessaire pour tenir le rythme. C'est une solution qui a été brevetée, une petite boisson fabriquée en France, naturelle et saine, végane et qui a le goût d'un thé fruit rouge. Merci beaucoup.
Merci Annabelle. Fred, est-ce que tu as des questions pour Annabelle?
Alors oui, j'ai des questions. Ça a été supervisé par des chercheurs scientifiques de différents domaines, de ce que je comprends. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté... Enfin, c'est quand même... ça ressemble à un médicament. Donc, au niveau législation, il n'y a pas quelque chose de similaire à ce qu'il faut pour introduire un médicament sur le marché ou... Comment vous faites?
Alors, totalement, c'est un complément alimentaire. Donc, on a soumis notre dossier à la DGCCRF. En France, c'est la DGCCRF qui contrôle tout ça. Et au niveau européen, il n'y a pas d'homogénéisation, mais on a une formule du coup, qui passe dans les différentes pharmacopées en Europe. Donc notre produit est totalement réglementé et aujourd'hui il est commercialisé d'ailleurs. Et vous pouvez le retrouver sur le site getnootropia.com.
Et donc c'est breveté?
Oui.
C'est une solution brevetée. Où ça? En France, Europe?
Aujourd'hui on est breveté en France.
France uniquement.
France
uniquement. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui existe dans d'autres pays ou est-ce que vous êtes complètement en train d'inventer quelque chose de nouveau que l'humain va pouvoir ingérer?
Alors, il n'y a rien d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire que nous avons pris des plantes qui sont utilisées depuis des millénaires, mais l'innovation, elle se porte sur l'association de ces plantes et sur les effets, notamment avoir à la fois de la concentration, de la mémoire et de l'énergie en même temps. Être calme et avoir de l'énergie, c'est ça l'innovation. Donc ça, c'est nouveau. On a un énorme marché qui est aux États-Unis, donc on a des compétiteurs directs aux États-Unis qui proposent des solutions multidimensionnelles comme on le fait. Mais en Europe, nous sommes les premiers à proposer une solution multidimensionnelle.
Alors, ma dernière question, qui aurait peut-être dû être la première, est-ce que c'est bon ou est-ce que vous êtes obligé de, je sais pas, mettre plein de sucre dedans pour qu'on puisse quand même le manger?
Quand on a cherché à développer un produit sain, c'est un critère qu'on a cherché aussi. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de sucre et surtout, il y a très peu de caféine.
Et c'est bon?
C'est bon, ça a le goût de tes fruits rouges. Voilà.
Bon,
très bien, merci.
On testera Annabelle. Agathe, est-ce que tu as des questions ou des remarques à faire sur le pitch d'Annabelle?
Alors déjà, Annabelle, bravo pour ton pitch. Je pense qu'on a bien compris le problème que tu adresses avec cette boisson. Tu pars vachement de ton cas personnel pour après en faire une généralité. Moi, je l'ai déjà dit souvent dans l'émission, j'aime bien qu'on parle un peu macro au début du pitch, hein, c'est-à-dire donner vraiment des chiffres un peu marché pour se rendre compte du problème et ton produit va pouvoir adresser le plus grand nombre de personnes. Je pense que c'est un vrai sujet de trouver des produits sains qui nous aident à nous concentrer. Peut-être que ce qui est intéressant, c'est de savoir vraiment quelle est la priorité de ce produit-là, parce que du coup, on a l'impression qu'il va régler tous nos problèmes. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet qu'il faudrait que tu arrives à traiter au tout début. Et puis sur le reste, moi j'aurais aimé peut-être qu'en tant que consommatrice que tu nous expliques comment on va utiliser cette boisson. C'est vrai que comme ça on a vraiment l'impression que c'est plutôt une sorte de médicament. Est-ce qu'il faut le diluer? Est-ce qu'on le boit comme ça à la bouteille? Je trouve que c'est intéressant que tu nous expliques un peu le consommateur en face, comment il va devoir l'utiliser. Peut-être que tu as 5 minutes pour répondre.
Oui, totalement. C'est vrai, c'est des points que j'aurais dû aborder bien avant. Donc en fait, c'est une boisson qui va se consommer quotidiennement comme un complément alimentaire. Ça, c'est une prise, donc une dose que vous ouvrez et que vous buvez directement. Ça peut se siroter pendant une heure, être posé sur le bureau ou être consommé d'un trait comme un shot. L'aspect et le but, en fait, c'était d'être pratique. Parce qu'en fait, à l'intérieur, au lieu d'avoir 6 gélules, par exemple, 6 compléments alimentaires différents, on a tout mis directement au sein même d'une boisson qui serait bonne et pratique. Voilà, on peut prendre l'avion avec. Ça, c'est un point important. On a pensé au pack de 5 pour les business trips, par exemple. Comme ça, les gens peuvent partir avec un petit pack pendant 5 jours avec leur pack de Nootropia et prendre l'avion directement avec eux.
Alors ça, tu vois, ça me parle parce que moi, je vois les compléments alimentaires. Ouais. Enfin, on est toutes et tous maintenant parce que à vouloir avoir des petites doses. Donc toi, tu as réussi à tout réunir au même endroit. Ça va nous gagner du temps dans notre quotidien.
Du temps et de la practicité, c'est sûr. Mais alors du coup, on peut le prendre en one shot ou il faut un traitement sur quoi? Une semaine, 2 semaines, 1 mois? C'est quoi le temps maximum d'utilisation?
Le temps maximum d'utilisation recommandé, c'est 3 mois quotidiens. Au bout de 5 jours, en fait, dès le premier jour, vous allez ressentir l'énergie et pour certaines personnes, la concentration. Vous allez vous sentir comme dans une bulle, être moins distrait. On a des données, au bout de 10 jours, on a une augmentation de la mémoire et une augmentation de la concentration qui sont faites de façon significative. Mais à chaque fois, les effets vont être de plus en plus importants, notamment sur le stress. Avec le temps, c'est pour ça qu'on préconise des cures de 15 à 30 jours minimum.
Et il n'y a pas de risque d'effet secondaire?
Il n'y a pas d'effet secondaire. On a sélectionné des plantes avec certains critères. Pas d'effet secondaire qui sont utilisés depuis des millénaires pour avoir assez de données pour leur utilisation et pas d'interaction au sein même du produit, bien entendu, mais tous les produits ne respectent pas ça.
Merci beaucoup, Annabelle. Merci. Annabelle Selam, donc, pour Nootropia.
Merci.
On suivra évidemment votre projet de près.
Merci beaucoup.
Fred, tu es convaincu par Nootropia?
Je suis convaincu, oui, pour... Je pourrais être client si je ne dormais pas assez. En fait, je pense que un des grands problèmes de nos vies trop stressées, c'est qu'on n'a pas ou plus trop le temps ni de dormir assez ou de tout simplement avoir des périodes dans lesquelles on ne fait plus rien. Mmh. Et donc, je fais le maximum pour, plutôt que d'utiliser quoi que ce soit comme complément ou comme médicament, eh bien, trouver le temps de dormir. C'est tout bête.
c'est
une solution qui a fait ses preuves depuis quelques millénaires.
C'est
quand même
le meilleur médicament, c'est sûr.
Voilà.
Ouais. Agathe, toi, t'es convaincue?
Ouais, moi, j'avais pas compris au départ. Je pensais que c'était une boisson. En fait, c'est un complément alimentaire. Ouais. Et moi, je vois beaucoup dans mon entourage de gens qui en utilisent énormément. Et je trouve que le fait d'avoir un seul flacon qui réunit tout, c'est une belle innovation. Ouais. Donc, ouais, je pourrais l'utiliser.
Allez, on accueille notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Paul Lévy, directeur général, cofondateur de Moduloop. C'est une plateforme de location et d'aménagement de bureaux. Bonjour Paul.
Bonjour.
Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono.
Alors avec Andy et Laurent, mes associés, nous connaissons bien le monde de l'aménagement de bureaux. Moduloop, c'est la réponse que nous donnons aux déchets que nous constatons dans cette industrie. Les produits d'aménagement de bureaux sont généralement réalisés pour durer et conçus pour durer entre 10 et 15 ans. Et pourtant, lorsqu'un locataire déménage, il doit faire place à son successeur et détruire les aménagements onéreux qu'il a fait réaliser et qui sont bien souvent loin d'être en fin de vie. En France, c'est 100 000 postes de travail qui sont détruits et reconstruits chaque année, pas loin de 1,5 milliard d'euros de dépenses souvent inutiles. Au-delà de la destruction de valeur, ces cycles de construction-reconstruction représentent à eux seuls plus de 50% d'impact carbone d'un bâtiment de bureau tout au cours de sa vie. Pour nous, il est urgent d'agir et de changer la donne. N'achetez plus vos aménagements de bureau, louez-les. Si vous n'achetez pas vos aménagements de bureau, alors vous pouvez partager vos équipements, prolonger leur durée de vie et ainsi diminuer leur impact carbone. C'est pour ça que nous avons créé Moduloop, la première plateforme qui permet de louer des espaces de travail complets, transformables et réalisables. Alors avec Moduloop, la V1 notre plateforme, nous mettons à disposition des surfaces tout équipées de notre flotte de mobilier. Lorsque vous avez besoin de changer votre configuration de bureau, nous reprenons le mobilier, nous le remettons à neuf et nous le remettons dans la plateforme Moduloop pour être réutilisé dans d'autres projets par d'autres utilisateurs.
Merci beaucoup, Paul Lévy, cofondateur, directeur général de Moduloop. Fred, tes questions.
Oui, alors, excellente idée. Ça me rappelle des concepts qui sont quand même parfaitement dans l'air avec tout ce qui est économie circulaire. Et donc là, vous transformez un modèle d'achat en location, mais pas seulement. Est-ce que vous récupérez aussi le mobilier, du coup, seconde main dans les sociétés qui déménagent ou pas? Est-ce que vous faites un petit peu comme Bluedigo, que vous devez connaître, j'imagine, puisque c'est dans votre espace?
Alors, notre but à nous, en effet, c'est on s'est dit que pour pouvoir faire du réemploi, il fallait avoir un écosystème. Donc, à ce moment-là, on a créé notre propre flotte d'équipements. On reprend ces équipements et on les reconditionne. Alors, pour répondre à votre question, on ne reprend pas les produits. On peut le faire en termes de service auprès des clients. Mais notre but, c'est de rester, justement, pour garder la traçabilité, rester dans notre écosystème comme on a une flotte de véhicules, d'avoir une flotte de mobilier et au fur et à mesure de passer dans des briques suivantes, donc les moquettes, les cloisons amovibles.
Les moquettes, ça existe déjà avec les carrés, là. Enfin, déjà, ça s'est révolutionné avec les carrés de moquettes qui, au lieu de faire en sorte qu'il y avait des grandes moquettes avec, quand il y a une tache, les gens vont la changer complètement. Là, c'est des carrés, donc s'il y a une tache de café sur une plaque de moquette, il suffit de changer la plaque, il n'y en a pas besoin de changer toute la moquette.
Tout à fait.
Donc ça a bien avancé, mais donc vous voulez quand même y aller, parce que là, sur ce secteur-là, des moquettes, il y a quand même déjà des acteurs.
Par rapport aux moquettes, si vous voulez, il n'y a pas d'éléments aujourd'hui qui sont vraiment donnés en location. Nous, notre but, c'est de pouvoir donner un aménagement avec du mobilier, mais également des éléments moquettes
qu'on reprendrait
pour les entreprises, pour le bureau.
D'accord. Ah ben je croyais que c'était déjà fait, ça, au niveau des moquettes, en tout cas. Mais
Actuellement, il y a quelques secteurs avec lesquels on travaille qui proposent, en effet, de nettoyer les moquettes, de les reprendre, de les reconditionner et de les remettre en vente pour pouvoir proposer des aménagements avec de la moquette reconditionnée.
Alors, comment vous allez faire pour vous faire connaître et est-ce que vous êtes aujourd'hui rentable ou pas? Quand est-ce que vous comptez l'être?
On n'est pas encore rentable. On a commencé il y a un an et demi sur ce projet. Pour nous faire connaître aujourd'hui, on travaille essentiellement, donc nous on est en B2B, on travaille au niveau des salons, forcément, pour pouvoir montrer notre savoir-faire auprès des sociétés. On a d'ailleurs un premier client qui nous a fait confiance dans une première étape, c'est l'hôpital franco-britannique, ici à Levallois, où on travaille avec eux sur ces éléments-là, et on espère bien, à partir de cet élément-là, de pouvoir convaincre d'autres personnes de nous utiliser.
D'accord, merci.
Agathe, quelles sont tes remarques sur le pitch de Paul Lévy?
Alors Paul, déjà ton pitch, moi je l'ai trouvé très bien construit. Tu nous as donné beaucoup de chiffres, donc pour bien comprendre le marché et l'ampleur de la tâche. On a bien compris aussi l'urgence du sujet des bureaux. Donc je trouve que tu poses vraiment bien le problème. Après, là où ça pêche un peu, je trouve que c'est au moment de ta solution. On comprend qu'il y a déjà des acteurs en place sur le marché, et c'est vraiment quelle est ton innovation. L'innovation que tu vas proposer, comment toi tu vas faire un peu la différence sur un marché comme ça où voilà il y a déjà beaucoup d'acteurs. Et puis un peu de définir un peu ton produit, ce qui va vraiment faire la différence de choisir ton entreprise par rapport à une autre. Peut-être que tu as des billes à nous partager.
Alors, au niveau de ce marché, il y a assez peu d'acteurs qui proposent de faire des aménagements de bureaux en abonnement. Alors, il y en a un gros qui a...
Ah, c'est en abonnement déjà.
Oui, ou disons en location ou en abonnement, on préfère les deux services. Aujourd'hui, il y a un gros acteur qui a été créé en 2020 par IKEA, qui vient sur ce marché, mais uniquement au niveau du mobilier de bureau. Nous, notre but, c'est de pouvoir d'abord de sélectionner des produits et faire en sorte qu'avec 80% des produits qu'on a sélectionnés, on peut répondre à l'ensemble des ambiances différentes. C'est-à-dire qu'on a pris dans ces produits-là, on les a classés par rapport à trois ambiances, créatives, industrielles et également corporate, et on les a classés par fonction. Donc au niveau de notre plateforme, les gens peuvent indiquer leurs préférences. On va donc créer à partir de là une ambiance qui répondra à leurs besoins plus rapidement. Et en ayant travaillé avec un écosystème, notre but, c'est pas de mettre 2000 références, c'est d'avoir très peu, et avec 20% pouvoir faire des marqueurs d'ambiance de manière justement à pouvoir reconditionner le plus rapidement possible et également prolonger la durée de vie. Et les marqueurs d'ambiance, eux, peuvent avoir des durées de vie plus courtes de manière à prolonger sur 80% les utiliser réellement jusqu'à 10 et 15 ans qui sont en réalité le temps pour lesquels ils ont été construits. Alors voilà où on se différencie. D'accord. C'est dans la mesure où on va créer cette flotte d'équipements. Alors j'aime bien le mot flotte parce que on est comme dans une flotte de véhicules. On va travailler ces éléments. On va avoir la traçabilité. On va savoir quand est-ce qu'ils reviennent pour pouvoir les replacer autre part.
Super. Fred, t'as une question ?
Oui, j'ai deux questions sur la manière avec laquelle vous y prenez pour avoir suffisamment de budget pour quelque part acheter le mobilier en avance pour pouvoir le louer, parce que quelque part vous faites la caisse,
c'est
vous-même qui achetez le mobilier. Et la deuxième question, c'est justement en tant que loueur, enfin locataire, du mobilier, au bout de combien de mois ou années il aurait possiblement été plus rentable pour la personne, enfin pour l'entreprise qui loue, d'acheter son mobilier, économiquement parlant, que de l'avoir loué chez vous.
Ok. Alors, pour la première partie qui concerne le financement, pour démarrer, on a déjà introduit dans notre flotte des produits qui viennent eux-mêmes du réemploi, de manière à descendre le
D'accord,
prix d'investissement.
D'accord, donc vous avez baissé l'investissement.
Ça, c'est
initial.
Le premier point.
D'accord.
Le deuxième point, c'est qu'on a en effet une société de location financière qui nous aide à passer au niveau de ces produits en finançant les produits et en les mettant en location, comme ça se passe aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est machines de photocopie ou ordinateurs.
D'accord, donc c'est de la location longue durée,
ces deux éléments qu'on combine, en D'accord. réalité. Une partie de réemploi, une partie de location longue durée.
Et alors, donc combien de mois il
Alors, pour répondre à votre question, nous, on ne fait pas d'événementiel, on est entre 1 et 6 ans. On pense qu'au-delà de 6 ans, plus possible de se poser la question, est-ce qu'il faut que j'achète ou D'accord. que je loue ? Mais en réalité, quand vous achetez, c'est comme dans le textile aujourd'hui, les modes changent et il faut en effet tout le temps suivre. Donc la question de savoir, aujourd'hui, nous on l'a prévu à 6 ans, mais je pense qu'on peut même aller au-delà si vous bougez beaucoup. Ça dépend de votre taux de churn. C'est-à-dire D'accord. si vous bougez 15% ou 20% par an, et bien là, on peut être rentable au bout de 8 ans, ça peut être rentable au bout de 8 ans ou 9 ans.
Très bien, merci.
Merci beaucoup, Paul Lévy. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le directeur général de Moduloop.
Merci bien.
Merci beaucoup. Et bravo.
Agathe, est-ce que tu es convaincue ? Est-ce que tu pourrais faire appel à une plateforme comme ça pour le Galion ?
Ah ouais, moi je trouve ça extraordinaire. Ouais. Enfin, Frédéric, il était très, il avait des questions très précises parce que tu connais bien le sujet. Ouais. Les startups, ça bouge tout le temps, ça grandit, ça grossit, et donc du coup, je trouve que c'est super de pouvoir louer et faire attention de pas tout le temps acheter du neuf. Il y a plusieurs acteurs et je trouve ça chouette de voir encore des nouveaux acteurs qui arrivent avec des solutions innovantes.
Fred ?
Oui, rapidement. Autour du mobilier, il y a plein de choses à faire parce qu'effectivement, d'une part, ça coûte cher, le mobilier d'entreprise, et d'autre part, il y a effectivement beaucoup de gâchis et donc des nouveaux modèles à inventer pour éviter tout cela.
Et un nouveau marché, évidemment, à aller conquérir.
Il y a un vrai besoin.
Beaucoup. Merci Agathe, on te retrouve la semaine prochaine.
Oui, avec plaisir.
Si vous voulez venir pitcher, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site internet de BFM Business. Pour candidater, vous avez aussi l'adresse lespionniers@bfmbusiness.fr, le QR code aussi s'affiche sur votre écran. Fred, on reste ensemble fin de cette émission. Pour les questions, c'est Fred vous répond.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
On continue avec vos questions, c'est la section Fred vous répond. Chaque semaine, vous me transmettez vos questions sur l'entrepreneuriat, sur la création de nouvelles sociétés, de nouveaux projets. Et je tente d'y répondre, vous posez aussi des questions parfois sur l'écosystème. Stéphanie, cette semaine.
Oui, on commence tout de suite avec la question de Claire. Est-ce une bonne idée de lever de l'argent auprès de ses proches, famille, amis, etc.
Alors, oui et non, ou j'ai envie de dire oui mais, c'est une bonne idée parce que ça permet de démarrer, c'est-à-dire que, et d'ailleurs même au début de Blablacar, c'est ce que j'avais fait, j'étais allé voir des amis qui ont en partie contribué à financer le démarrage. La difficulté, évidemment, c'est que ça crée une relation différente avec sa famille ou ses amis quand on a eu un échange d'argent, donc il faut être extrêmement prévenant vis-à-vis des risques que ça représente et être capable d'aller bien expliquer à toutes ces personnes-là qu'on connaît bien, que ce soit sa famille ou ses amis, que l'argent qui est investi dans une société en démarrage, ce n'est pas un placement au sens classique du terme. C'est pas quelque chose sur lequel on peut dire ça va rapporter, j'en sais rien, 1, 2, 3, 5, 12% par an. Non, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. C'est un investissement dans le sens où ça peut valoir beaucoup, un peu ou rien du tout. Et ça peut valoir rien du tout aussi sous quelques années. Je me souviens que quand j'avais fait ça avec des amis, je leur avais dit, bon, ne mettez de l'argent que si vous n'avez vraiment rien d'autre à acheter dans votre vie. C'est-à-dire que si vous avez, j'en sais rien, un vélo ou même une voiture à acheter, eh bien, ne mettez pas de l'argent dans Blablacar. Si vous avez ne serait-ce qu'une poussette à acheter avec cet argent-là, eh bien, ne mettez pas l'argent.
C'est parce de l'argent qu'on est prêt à perdre, finalement, c'est ça? Un peu comme au casino.
Il faut être prêt. Alors, on espère que c'est moins hasardeux que Évidemment. Le casino. Mais, en tout cas, même si on fait tout pour que ça marche, il y a des fois, ça ne marche pas. Et donc, il faut être prêt quand les amis ou la famille mettent de l'argent. Il faut qu'ils soient prêts à se dire qu'effectivement, ils ne le récupéreront potentiellement jamais. Ça, c'est très important. Donc, et puis, encore une fois, après, il faut rappeler aussi autre chose. Toutes les sociétés et tous les projets n'ont pas besoin de lever de l'argent. Il y en a beaucoup qui peuvent se développer directement en ayant une activité qui puisse être rentable assez rapidement dès le début, sous une forme de service ou de produit qui ne demande pas forcément un investissement colossal au démarrage. Et donc, il ne faut pas toujours penser que lever de l'argent, c'est une obligation. Loin de là, il y a plein de business qui démarrent sans lever d'argent et qui fonctionnent très bien.
Allez, on enchaîne tout de suite avec la question de Thomas. Comment conserver la créativité des débuts quand l'entreprise grandit, se structure et se segmente?
Alors, la créativité, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas des idées qui tombent du ciel. Par contre, on a des idées qui tombent d'une attitude. C'est-à-dire que c'est une attitude ouverte aux possibilités et à une ambiance de travail qui est créée aussi et qui laisse la possibilité à chacun de s'exprimer, qui laisse la possibilité à chacun d'aller donner des idées qui parfois sont pas les bonnes et des idées qui parfois sont les bonnes. Et donc, il faut surtout pas empêcher chacun d'aller s'exprimer dans l'entreprise. Donc, en fait, pour conserver sa créativité, il faut conserver l'attitude qui est propice à cette créativité. Alors, j'en parle d'ailleurs dans le livre Mission Blablacar que tu as là.
Que j'ai là.
Notamment, on étudie la créativité chez Pixar. Alors là, c'est encore autre chose. Chez Pixar, ils font des films d'animation qui sont d'une créativité absolument incroyable. Et ça se fait en groupe. C'est une créativité collective où chacun apporte des idées. Chacun est libre d'apporter des idées. Il n'y a pas de jugement sur les idées elles-mêmes. En tout cas, pas de jugement immédiat. C'est vraiment des choses qui vont être étudiées au fur et à mesure. Chacun a la possibilité de s'exprimer. C'est aussi un processus itératif. Très souvent, une première idée, elle arrive. Elle n'est pas finie, elle n'est pas parfaite, loin s'en faut. Et il faut affiner pour faire converger et arriver vers quelque chose qui fonctionne vraiment. Donc voilà, puis après, il y a l'engagement, hein, justement, chez Pixar. Pour Ratatouille, ils étaient venus, là, toute l'équipe à Paris pour tester à peu près tout ce qui existe en termes de gastronomie sur Paris, pour justement chercher l'inspiration de l'expérience réelle pour venir alimenter l'idée qu'ils avaient au départ de faire ce scénario-là.
Merci beaucoup Fred pour toutes ces réponses aux questions que vous nous avez envoyées. C'est la fin de cette émission Fred, mais évidemment on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Les Pionniers avec toutes les séquences, le tête-à-tête, le pitch et les questions.
Très bon week-end.
Très bon week-end.
Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.